Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, cette page qui se tourne sous nos yeux en Grande-Bretagne, c'est en ce moment même. La reine ne prononce pas cette année son traditionnel discours du trône. C'est une première depuis plus d'un demi-siècle. Dans ce journal également, les dernières spéculations autour du futur Premier ministre français, celui-ci. Et puis, qui a bien pu acheter le tableau d'Andy Warhol, vendu 185 millions d'euros cette nuit aux enchères? Monique Younes a mené l'enquête.
Nos deux focus du jour. D'abord, ce chiffre qui fait froid dans le dos. Déjà 50 féminicides depuis le début de l'année. C'est 10 de plus qu'il y a un an à la même époque. Et à 12h50, coup de projecteur sur ces nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire. Je disais wokisme, vaccinotrome, mais également grossophobie.
Et justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Utilisez-vous toujours un dictionnaire papier? Vous dites oui à 55%. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Encore une bien belle journée.
Oui, avec beaucoup de soleil. Allez, juste un petit voile nuageux actuellement sur le nord qui se décale du sud-ouest au nord-est. Un peu plus de nuages dans l'après-midi sur les reliefs du massif central, des Alpes et de la Corse avec quelques averses résiduelles. Et puis sur l'ouest et le nord, du très beau temps, juste plus nuageux sur la pointe de la Manche avec quelques gouttes sur le Finistère. Les températures de 17 à 22 degrés près de la Manche et 25 à 31 degrés ailleurs.
Merci beaucoup et à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, ce discours du trône, sans trône. Pour la première fois depuis près de 60 ans, la reine Elisabeth II est obligée de renoncer à ce moment fort de la démocratie britannique. Bonjour Marie Billon, on vous retrouve en direct de Londres. C'est donc son fils, le prince Charles, qui la remplace.
Oui, alors la cérémonie précédant le discours a été sensiblement la même malgré cet énorme changement. Ce sont d'abord la couronne impériale et d'autres symboles royaux comme l'épée d'État qui sont arrivés dans trois voitures différentes au Parlement. Et puis le prince William seul a fait son entrée et finalement le prince Charles et son épouse Camilla. Comme le veut le protocole, les députés viennent juste d'être convoqués par Blackrod qui est le représentant de la reine à qui comme toujours on a fermé la porte au nez. C'est pour symboliser l'indépendance du Parlement face à la couronne. Les députés font actuellement leur chemin jusqu'à la Chambre des Lords, où est déjà installé le prince Charles. Il est assis sur un trône plus bas que celui que la reine aurait occupé. Il est donc absent, ce trône, aujourd'hui. Tout est fait pour montrer que la reine règne toujours. Elle n'a fait que déléguer ses responsabilités pour aujourd'hui à son fils. C'est la première fois que le prince Charles prononce le discours du trône à sa place. Elisabeth II n'a raté que deux fois cette occasion quand elle était enceinte, en 1959 et 63. Charles était alors adolescent. Mais c'est vrai que l'héritier du trône était présent depuis longtemps à cette cérémonie annuelle. C'était pour symboliser la continuité de la monarchie et c'est pour ça qu'aujourd'hui le prince William est présent pour la première fois.
Marie Billon en direct de Londres pour RTL.
Dans l'actualité également, ce drame en Saône-et-Loire.
Un homme a tué son ex-compagne, sa fille et sa secrétaire. Il s'est ensuite suicidé, Frédéric Perruche.
Oui, un suicide en Haute-Savoie, à 200 km des lieux des crimes, près de Chalon-sur-Saône. Jonathan Kuhn, 38 ans, a d'abord tué à coups de couteau son ex-compagne et sa fille de 5 ans dans l'ancien appartement familial qu'il occupait toujours depuis leur séparation. Et puis, il a donné rendez-vous à sa secrétaire d'auto-école pour lui faire subir le même sort. La séparation était tendue, voilà qui pourrait expliquer le drame familial. Mais le meurtre de l'une de ses salariés, Sarah, jeune mère de famille de 32 ans, intrigue le procureur de Chalon, Patrice Guigon.
C'est effectivement assez inhabituel, notamment lorsqu'on a affaire à un homicide dans un cadre familial, conjugal. Généralement, ça se limite aux membres du couple. Et là, on a une deuxième victime, adulte, qui ne fait évidemment pas partie de ce couple. Donc, c'est un sujet d'interrogation pour nous. C'est effectivement ce qui fait que c'est une série d'homicides qui n'est pas ordinaire.
Voilà, c'est l'un des mystères de cette affaire. Quant au meurtrier, il avait été condamné deux fois en 2009 et un épisode de violence contre sa compagne avait été signalé en octobre 2019.
Frédéric Perruche, le correspondant de RTL dans la région de Lyon à Paris, le chauffard accusé d'avoir tué le fils de Yannick Aleno et lui toujours en garde à vue. Un drame qui a bien sûr suscité une très vive émotion, notamment parmi les chefs. Stéphane Manigold est le président de la branche restauration de l'UMI.
Antoine est certainement un des jeunes chefs talentueux, prometteurs, beaucoup d'humilité. C'est une belle personne qui a été fauchée par une ordure, j'ai pas d'autre mot. Un type dont la place est en prison, il est certainement pas sur la route. Je suis père de famille, je peux pas imaginer un père, il n'enterre pas ses enfants. C'est pas le sens de l'histoire.
Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service police-justice de RTL. Que sait-on de ce chauffard qui est toujours en garde à vue?
Eh bien, il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, domicilié à Beson, dans le Val d'Oise. Dimanche soir, il a tenté de prendre la fuite à pied après l'accident, mais il a été interpellé par un policier hors service qui se trouvait à proximité des lieux du drame. Dans la foulée, le chauffard a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie. Il a été emmené à l'hôpital pour une prise de sang dont on ne connaît pas encore le résultat, nous indique une source proche du dossier. Quant à de possibles antécédents judiciaires, une source policière indique à RTL qu'il était déjà connu pour plusieurs vols de véhicules et qu'il était sous le coup d'une fiche judiciaire de 3 mois de prison à purger. Le parquet de Paris ne confirme pas cette information. Sa garde à vue devrait se terminer dans la soirée. Il sera ensuite présenté à un juge d'instruction.
Précision signée Alice Moreno. J'ajoute que l'émission Top Chef, diffusée demain soir sur M6, sera dédiée à Antoine Alléna.
La campagne des législatives et les candidats de la majorité présidentielle sont réunis aujourd'hui à Aubervilliers.
La journée de séminaire de formation qui sera clôturé tout à l'heure par Emmanuel Macron, le président qui, ça y est, a trouvé son nouveau Premier ministre. Il l'a confirmé hier soir à Berlin.
Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure.
Alors ça, c'était à Berlin hier soir, Thomas Després. On imagine qu'à Aubervilliers, le sujet est dans toutes les têtes au sein de la majorité.
Exactement, mais n'allez pas croire que les futurs candidats de la majorité ont plus d'infos que nous. Pourtant, on a bien essayé. On cherche le profil du futur Premier ministre, ça serait quoi?
C'est une bonne question.
Une future Premier ministre? Proche des gens et voilà, au plus près des citoyens, je pense.
Vous avez un nom comme ça
Non, ça, si vous en avez un, je suis preneur.
Hélas, non, mais certains candidats ont quand même une petite idée du profil du futur locataire de Matignon.
Je pense que le président l'a dit, il faut qu'il ait une fibre sociale, qu'il ait une fibre environnementale et qu'il ait un certain goût de la planification.
Du social, de l'écologie, un planificateur. Et pourquoi pas une femme?
C'est vrai que la parité, c'est intéressant. On a une femme une fois Premier ministre, ça serait bien que cette fois-ci, on ait une et que ça se passe mieux que la première fois. On a tous hâte de le connaître parce qu'on a tous besoin de commencer à travailler.
Bon, pas sûr qu'on ait beaucoup avancé. Ce soir, à 18h, c'est Emmanuel Macron qui viendra devant ses troupes. Peut-être alors qu'il leur glissera quelques éléments supplémentaires.
C'est intéressant la parité, on aura noté ça. Monique, vous partagez avec
oui,
moi.
Je partage.
Récit signé Thomas Després à Aubervilliers pour RTL. Dans l'actualité également, cette contre-attaque, celle du Sinerpa après le scandale Orpea, le syndicat qui regroupe les maisons de retraite, annonce 2 journées portes ouvertes les 20 et 21 mai prochains.
Nous souhaitons des visites guidées pour aller voir des locaux qu'on voit moins, la cuisine, la lingerie, pour expliquer la façon de vivre au quotidien des résidents, mais également le travail qu'effectuent les salariés tout au long des journées et des nuits, mettre en avant la restauration en demandant aux chefs cuisiniers comment sont réalisés les menus. Ça peut être l'équipe soignante avec l'ergothérapeute qui explique quel est son métier. On peut aussi aborder des sujets sensibles, la pénurie de personnel. Cette opération-là, nous la souhaitons vraiment transparente pour acquérir de la lisibilité sur nos services.
Florence Ernest-Momé, la déléguée générale du Sinerpa au micro RTL d'Agathe Landais. Et puis voilà une nouvelle illustration de l'inflation. La pause à la machine à café va bientôt vous coûter plus cher, plus 5 à 10 centimes en moyenne, Pierre Herbulot.
Oui, et pour Saïd que j'ai rencontré à La Défense, ce sera 5 à 10 centimes fois 4, fois 5 et encore fois 4. 4 cafés par jour tous les jours de la semaine pendant un mois. Son budget mensuel pause café devrait augmenter de 6 euros, 60 euros par an à peu près. Sa réaction? Ainsi soit-il.
C'est pas ce qui va nous décourager. Surtout vu à quel point est-ce qu'on peut pas fonctionner sans café. Si après, si ça pouvait être conso par l'entreprise, ça pouvait être pris en charge à 100% par l'entreprise, ça serait pas mal. Mais non, je pense pas que la petite augmentation, là, ça aura un impact énorme sur notre consommation de café.
Alors c'est vrai que le café est un carburant dans l'entreprise. C'est pour ça que certains patrons pourraient décider d'absorber les augmentations. Augmentation indispensable pour ceux qui gèrent les machines. Les matières premières flambent, raconte Raoul Mazère de Proxipose, 30 000 distributeurs en France.
On retrouve du 90% sur toute la partie café arabica, plus de 40% sur les cafés robusta. Le lait, le chocolat, le sucre, enfin toutes les matières premières augmentent d'une manière forte. Donc tout ça, ça nous amène évidemment une augmentation des coûts de fabrication qui est élevée.
En machine, ça veut dire 5 à 10 centimes, vous le disiez. Ça fait 10 à 20% de hausse puisque la moyenne du café d'entreprise, c'est 40 centimes. On est grosso modo sur le même niveau d'augmentation que le café vendu en grande surface. Il a augmenté de 14% selon le décompte d'RTL.
5 centimes, c'est pas forcément beaucoup, mais 10 à 20%, effectivement, ça fait pas mal. Merci à vous, Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Le musée du Louvre, bientôt ouvert en nocturne.
Ce sera a priori le cas tous les vendredis à partir de juillet. C'est ce qu'annonçait ce matin sur RTL Laurence Descartes, la patronne du musée, qui table sur 5 millions de visiteurs d'ici à la fin de l'année. On est encore loin des 10 millions d'avant la pandémie, mais la fréquentation des musées français repart. Et puis c'était l'événement cette nuit à New York. Un tableau d'Andy Warhol, le portrait de Marilyn Monroe, vendu 195 millions de dollars. Ça fait à peu près 185 millions d'euros. Un record pour une œuvre du XXe siècle. Bonjour Monique Younes.
Bonjour.
Qui peut bien s'offrir une telle toile?
Alors, une rumeur persistante dit que ce serait un Français qui aurait décroché le trophée. Il s'agirait de l'homme le plus riche de France, j'ai nommé Bernard Arnault, patron de LVMH, 151 milliards de dollars au compteur d'après Forbes. Il en a les moyens. Et plusieurs indices concordent en faveur de la rumeur. Le dernier week-end, Bernard Arnault, en déplacement privé à New York, est allé chez Christie's voir le tableau d'Andy Warhol, qui est un de ses artistes préférés. Il en possède plusieurs œuvres. Bernard Arnault aime aussi remporter les trophées dans les ventes aux enchères. Et cette Marilyn de Warhol en est un. La posséder, c'est entrer encore plus dans le cercle très étroit des plus importants collectionneurs du monde. Et puis, s'il l'expose dans sa fondation, la Fondation Vuitton, ça serait un événement mondial. Autre indice en faveur de la rumeur, l'enchère a été emportée dans la salle par le galeriste américain Larry Gagosian, un des galeristes préférés de Bernard Arnault, qui lui avait facilité par le passé l'acquisition de plusieurs toiles importantes. Et dernier indice, et non des moindres, Bernard Arnault est le récent acquéreur de la joaillerie Tiffany, dont la couleur fétiche est le turquoise. Et le fond du tableau de Marilyn est turquoise. On n'a pas oublié que Marilyn chantait. Les louanges de Tiffany, chantait Marilyn. Et si la sérigraphie de Warhol vient confirmer le mariage de la star avec la marque, c'est un coup de pub du tonnerre.
Enquête signée Monique Younes.
Il y en a 28 des Marilyn.
Non, de cette série de 64, il n'y en a que 5. C'est la série la plus aboutie de Marilyn Monroe, faite par Andy Warhol. Et elle était tellement difficile à réaliser qu'il n'en a fait que 5. Et c'est pour ça que la valeur est forte.
Merci Monique Younes. Dans une seconde, nos deux focus. Et on va commencer d'abord par ce chiffre, je le disais tout à l'heure, qui fait froid dans le dos. 50 féminicides depuis le début de l'année.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Un homme est suspecté d'avoir très violemment agressé sa compagne. À coups de couteau, la jeune femme a eu les yeux crevés.
C'est effectivement l'un des 5 enfants de ce couple qui appelle les policiers. Précise au téléphone que sa mère est blessée et inanimée.
Une femme de 45 ans a été retrouvée morte, poignardée à son domicile à Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Toutes ces histoires font froid dans le dos et on aurait pu en mettre des dizaines. Depuis le début de l'année, au moins 50 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon. 50 féminicides, c'est 10 de plus qu'il y a un an à la même date. Depuis, pourtant, des choses ont été faites. Alors, comme on l'expliquait, les moyens déployés par le gouvernement n'ont-ils servi à rien? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL. Bonjour,
bonjour
Anne. Et Anne-Cécile Melfer, bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de la Fondation des femmes. Anne, je me tourne vers vous d'abord. Rappelons ce qui a été fait par le gouvernement au cours de ces derniers mois.
Alors, depuis le Grenelle des violences conjugales, fin 2019, il y a eu toute une série de mesures qui ont été annoncées et mise en œuvre, dit le gouvernement. D'abord, pour mieux détecter ces violences, le numéro d'urgence, on le rappelle, le 3919, marche maintenant 24 heures sur 24 tous les jours. Les policiers et les gendarmes ont été mieux formés à l'écoute des femmes victimes. On peut aussi déposer plainte dans des hôpitaux. Une centaine d'établissements ont signé des conventions avec les forces de l'ordre. Et puis, le gouvernement a aussi amplifié le déploiement des téléphones grave danger, les TGD, qui sont attribués par un juge à une femme menacée. Il y en a, selon les derniers chiffres disponibles, 2310 déployés en France. Il y a aussi plus de bracelets anti-rapprochement. Là aussi, c'est un juge qui ordonne à un agresseur de le porter pour éviter une récidive. Mais un magistrat me confiait récemment que ce n'est pas simple à mettre en œuvre. C'est un dispositif qui est très contraignant, y compris pour la victime. Le gouvernement a également augmenté le nombre de places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes. On est passé de 5700 à 7800 en 2 ans. Et il a ouvert 30 centres de prise en charge des auteurs de violences. Depuis le Grenelle, le gouvernement se félicite d'avoir réalisé 76% des mesures promises et 24% sont encore en cours de réalisation.
Anne-Cécile Melfer, on entend tous ces moyens déployés, de la formation aussi. Et malgré tout, on a aujourd'hui, je le disais, 10 victimes de plus qu'il y a un an. Alors on va retrouver Anne-Cécile Melfer dans un instant. Mais Anne, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Oui. Vous venez nous faire la liste de tout ce qui a été décidé. Et quand on voit 10 de plus aujourd'hui, au 10 mai, on se dit que ça n'a servi à rien. C'est dur de dire
ça. C'est compliqué de dire ça, mais il y a plein de petites mesures qui se mettent en place petit à petit, de façon assez... on pourrait toujours dire que c'est jamais assez, que c'est toujours restreint. On peut prendre un exemple dont je ne vous ai pas parlé, c'est les armes. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que les hommes violents, une fois identifiés, on aille saisir leurs armes. Mais dans la liste de tous les féminicides de cette année, il y en a beaucoup qui sont faits avec des couteaux de cuisine ou par étranglement, et...
Ça, on
certes,
peut rien faire.
Aménager, enfin, mieux s'occuper des armes des maris violents, c'est bien. Ça n'empêchera pas tous les féminicides qui ont lieu, hélas.
Manifestement, il y a quand même des pays où, est-ce par la communication, la sensibilisation, ces pays sont plus efficaces.
L'Espagne.
Et on pense à l'Espagne.
L'Espagne
voilà,
a été,
qui reste un exemple pour lutter contre les féminicides.
L'Espagne a très vite mis beaucoup plus de moyens que la France, notamment en nombre de dispositifs comme les téléphones graves dangers. Ça s'est déployé beaucoup plus rapidement que chez nous.
Anne-Cécile Melfer, on vous a retrouvé, on a rétabli la ligne. On évoquait à l'instant avec Anne Le Hénaff toutes ces dispositions qui ont été prises ces derniers mois, ces dernières années par le gouvernement. Vous dites quoi ? Ça ne suffit pas ou ça n'a servi à rien ?
Alors, ça n'a pas servi à rien. Déjà, les choses se sont en réalité, alors il faut le voir un peu plus sur le long terme, en réalité, on sent quand même une tendance, une légère tendance à l'amélioration. Donc moi, je reste plutôt optimiste sur l'efficacité des mesures et surtout l'efficacité, la mobilisation générale. Parce que les Grenelles des violences faites aux femmes, c'est à la fois des mesures, mais c'est aussi la mobilisation de toute la société. Ça veut dire plus de gens qui vont avoir l'œil attentif, l'oreille attentive. Ça veut dire des policiers qui ont plus aussi de priorisation sur de ces dossiers là sur l'autre, parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses à faire, les policiers. Donc si le ministre leur dit c'est ça qui passe en premier, ben en fait évidemment ils y passent plus de temps et donc c'est mieux pour les femmes. Donc ça, c'est des choses qui ont été améliorées. Mais en fait, pour contredire un petit peu ce qui vient d'être dit, le problème qu'on a sur les mesures, c'est que les mesures qui ont été prises, quand on regarde sur le terrain la réalité concrète, très peu de femmes les ont vues dans leur vie quotidienne. Je vous donne un exemple sur les plaintes à l'hôpital. Vous avez parlé d'une centaine d'établissements hospitaliers qui ont signé des conventions. Déjà, il y a plus de 1000 hôpitaux en France, donc ça fait que 10% des hôpitaux. Et signer une convention ne veut pas dire que les plaintes sont prises à l'hôpital. Combien de plaintes sont prises à l'hôpital ? Ça, on ne le sait pas, et je vais vous dire, moi, il y en a très très peu, pour une raison très simple, parce que moi, j'en ai parlé avec des policiers qui sont frustrés et qui nous disent, en fait, moi, j'aimerais bien prendre des plaintes dans des maisons des femmes ou à l'hôpital, mais je n'ai pas d'ordinateur portable. Donc on en est là, il manque des ordinateurs portables pour aller prendre les plaintes à l'hôpital. Donc même si on signe une convention, ils pourront toujours pas le faire. Ensuite, sur les téléphones grave danger ou les bracelets anti-rapprochement, on a un vrai problème de juges qui ne délivrent pas suffisamment de bracelets anti-rapprochement ou de téléphones grave danger. Même chose, existent les ordonnances de protection. Ça, c'est le juge qui décide que vous êtes sous protection de la justice. Aujourd'hui, parce qu'on a bataillé, on a réussi à atteindre 3000 ordonnances de protection par an, il en faut 30 000 par an. Donc, en fait, toutes les choses sont un petit peu engagées et effectivement avec des petits moyens. Mais donc, résultat, les femmes ne voient pas la différence dans leur vie tous les jours. Elles ne sont pas beaucoup mieux protégées qu'avant dans leur vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui ces chiffres qui sont hallucinants.
D'un mot, on évoquait le cas de l'Espagne. Comment vous expliquez-vous qu'en Espagne, finalement, ça a été efficace ? Parce qu'ils ont mis beaucoup plus de moyens ?
Ils ont mis beaucoup plus de moyens avec des choses qui, donc à nouveau, c'est pas que l'annonce d'une mesure, mais très concrètement, la dame, elle peut aller dans son commissariat à côté, elle voit que ça a changé, parce que c'est ça qu'on veut, que ça change dans la vie des femmes. On veut pas juste des mesures qui sont dans les journaux, mais on veut des mesures dans la vie des femmes. Donc ça, pour ça, il faut des moyens. Il faut acheter des ordinateurs. Il y a des moyens. Ça, c'est absolument nécessaire. Et puis, ce qu'ils ont fait en Espagne, c'est qu'ils ont eu le courage d'une refonte en profondeur de la justice. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu en France. C'est pour ça que nous, on demande des brigades spécialisées au niveau de la police et des tribunaux spécialisés qui soient capables de juger extrêmement rapidement et de manière globale les dossiers au lieu d'éparpiller aujourd'hui entre différents juges aux affaires familiales, pénales. C'est super compliqué. Je ne sais pas si vos auditeurs et auditrices ont déjà été au contact de l'institution judiciaire,
mais c'est
extrêmement compliqué, extrêmement long. Le temps judiciaire est beaucoup trop long. Quand vous avez un homme qui a pour but de vous tuer et qui vous déteste à mort, mort et qui va tout faire. En fait, le passer 6 mois sur une plainte, 9 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, en fait, évidemment qu'il a le temps de vous tuer 3 fois, 10 fois. Mmh. Donc ça, c'est des choses où il faut qu'on se rende compte que ce sont des femmes qui sont menacées de mort par des personnes qui sont extrêmement déterminées, qui connaissent toute la personne parce que c'est leur ex-compagne. Donc, elles connaissent les mots de passe, elles connaissent ses amis, elles connaissent où elle habite. Vous vous rendez compte du danger qu'elle court. Donc, il faut être extrêmement efficace. Il faut pas rechigner sur les moyens parce que c'est des vies humaines qu'on peut sauver. Et donc, c'est ça qu'il reste à faire aujourd'hui, très clairement. Une mise en œuvre beaucoup plus massive, des moyens plus massifs et puis une vraie refonte du système judiciaire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Anne-Cécile Mailfer. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de la Fondation des femmes. Nous allons parler du dictionnaire, wokisme, grossophobie, vaccinodrome, ça entre.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Ça, c'était pour vous, Pascal. Je suis sûre que vous connaissez la chanson
oui,
Les mots bleus.
Qui ne connaît
ce
pas cette chanson
avec les
magnifique.
Yeux. Il y a aussi les mots d'amour.
Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour.
Quelques mots d'amour. Et puis les nouveaux mots. Comme chaque année, ils sont plus d'une centaine à faire leur entrée dans le Petit Larousse. 150 précisément pour cette édition 2023. Bonjour Karine Girac-Marinier.
Bonjour.
Et vous êtes directrice du département langue française, dictionnaire parascolaire et beau livre des éditions Larousse. 150 nouveaux mots cette année et beaucoup liés au Covid, vaccinodrome notamment, passe vaccinal.
Tout à fait. Oui, oui, encore que plusieurs mots liés au Covid, une vingtaine, une trentaine. Effectivement, on a eu encore besoin des vaccinateurs, des vaccinatrices notamment, des passes vaccinales, vous avez raison. On a eu également un peu les notions d'enfermiste aussi, de rassuriste.
Donc ça, c'est dans le dictionnaire, on peut
tout
l'utiliser.
Tout à fait, oui, oui. Ces mots font leur apparition cette année. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de fatigue pandémique. C'est vrai qu'on a un peu les conséquences du Covid sur notre vie de tous les jours.
Comment on décide qu'un nouveau mot doit faire son entrée dans le dictionnaire ?
Alors, on ne le décide pas, en fait, entre guillemets. C'est en fait la population francophone et française qui le décide pour nous. En fait, nous, on utilise deux critères. Un critère quantitatif, c'est-à-dire le fait que le mot soit extrêmement utilisé. C'est des millions d'occurrences, des milliers d'occurrences. Et puis, un critère plus qualitatif, c'est que ce mot doit passer, en fait, dans le grand public. Il faut que tout un chacun soit susceptible de l'utiliser.
Bah, écoutez, franchement, j'ai la liste des noms. Le cacapo.
Oui, c'est adorable, c'est un petit
oui,
animal.
Oui, mais là, vous pensez que les gens qui nous écoutent, ça,
mais
c'est quoi le cacapo ?
C'est importante.
Vous savez ce que c'est ?
Oui.
Oui, oui, remarquez, oui, excusez-vous. C'est un perroquet néo-zélandais.
Il faut le voir surtout, Pascal.
Il est entré dans le dictionnaire, le cacapo. Oui. J'ai été surpris.
Il y a aussi l'allumi, vous savez ce que c'est ? Non,
non, à l'allumi, bah, je sais ce que c'est parce que je l'ai lu, mais je ne le savais pas il y a quelques secondes.
Oui, et donc ça aussi
Tout à fait. L'allumi, qui est un fromage effectivement à partir de lait de brebis qui est fait et qui est chypriote, est rentré.
Mais alors, très concrètement, vous regardez, je ne sais pas, les occurrences sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, comment on voit que des mots se répandent comme ça dans la population ?
Effectivement, pour tout ce qui est quantitatif, Internet est très utile. Et pour ce qui est qualitatif, on se sert énormément des médias, que ce soit la radio, la télé, télévision et la presse écrite, parce que ce sont des médias généralistes. Et donc, quand les journalistes commencent à utiliser abondamment ces mots, il faut que nous, le Petit Larousse, nous les définissions.
Alors, on va vous retrouver après une pause. Simplement, pour nos auditeurs, je signale et vous nous direz ce que c'est, le tomte. Je le dis bien, le tomte qui est entré dans le dictionnaire. Il y a également le yodel et il y a le chiclit. Et bien, vous allez nous dire ce que c'est dans une seconde. Il est 13h01.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Madame Karine Girac-Marinier va rester encore quelques secondes avec nous. Elle est directrice du département langue française chez Larousse et on parle des nouveaux mots qui sont entrés. Mais d'abord, le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a eu ce discours du trône sans trône pour la première fois depuis près de 60 ans. La reine Elisabeth II renonce à ce moment fort de la démocratie britannique. C'est son fils, le prince Charles, qui la remplace, Marie Billon.
Oui, absolument. C'est le prince Charles qui a prononcé ce discours du trône, une toute première, effectivement, assis sur un trône beaucoup plus bas que celui que la reine aurait occupé. Tout a été fait vraiment pour montrer que la reine régnait toujours, mais qu'elle avait délégué donc la responsabilité au prince Charles pour cette année. Il a donc prononcé ce discours devant le Parlement réuni et il a conclu ainsi le discours du trône.
My lords and members.
Mes lords et députés, Sa Majesté la Reine prie pour que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans votre tâche.
La reine est bien sûr la chef de l'église anglicane, qui est religion d'État, d'où cette référence à la religion, à voir si effectivement le prince Charles va prendre ce nouveau manteau de responsabilité. En tout cas, pour l'instant, la reine a uniquement des problèmes de mobilité et n'a délégué ses fonctions qu'aujourd'hui au prince Charles.
Merci à vous Marie Billon, en direct de Londres. Et puis la campagne des législatives ici en France, les candidats de la majorité présidentielle sont réunis aujourd'hui à Aubervilliers, journée de séminaire qui sera clôturée par Emmanuel Macron, le président qui a assuré hier soir depuis Berlin avoir trouvé son nouveau Premier ministre. On attend le nom. La météo, c'est avec vous, Peggy, des températures estivales cet après-midi.
Oui, exactement, Amandine, bien en hausse entre l'Aquitaine et l'Île-de-France aujourd'hui. 31 à Bordeaux cet après-midi, ainsi qu'à Cognac, 29 à Tarbes, à Bourges, à Paris, Lyon, 28 à Montélimar, 27 à Strasbourg, Reims et Marseille, 26 à Nantes, 25 à Toulon, 24 à Bastia, 23 à Caen et 17 à Cherbourg. Alors, côté ciel, c'est une belle journée avec moins d'instabilité aujourd'hui dans le sud-est. Le voile nuageux au nord ce matin, il se décale légèrement vers le sud-ouest en allant vers le nord-est, mais ça reste très agréable. Un peu plus de nuages sur les reliefs, comme chaque jour, notamment du massif central, avec quelques averses résiduelles sur les Alpes et la Corse. Et au nord et à l'ouest, c'est du beau soleil. Il restera un peu plus de nuages, c'est vrai, sur les pointes de la Manche et quelques gouttes sur le Finistère.
Et demain, ça continue.
Oui, ça continue, c'est encore l'été. Et surtout du sud-ouest au nord-est, en passant par la région centre, on sera souvent autour des 30 degrés. 32 même à Auch, 31 à Agen, à Clermont-Ferrand, 30 à Lyon, à Bourges, à Strasbourg, 28 à Montélimar, 27 à Paris, 25 à Perpignan et au Mans, 22 à Nantes et 18 à Brest. Des températures en baisse sur le nord-ouest parce que le ciel sera chargé entre la Bretagne le matin jusqu'au Pays de la Loire et la Normandie l'après-midi avec quelques faibles pluies. Ailleurs, du très beau temps après dissipation des grisailles matinales.
Merci Peggy.
Je vous garde, Amandine, pour terminer le chapitre évidemment La Rouge. Nous gardons également aussi Ludovic Van de Kerckhoff pour terminer avec Karine Girac-Marigny. Alors, il y a des mots effectivement qui sont d'ailleurs pas très jolis. Hein.
C'était quoi votre mot, la tomte?
Alors oui, tomte, mais finalement on dit tonte. T-O-M-T-E. C'est un lutin suédois. C'est facile à caser
à
là, dans une conversation. J'ai vu un tonte l'autre jour.
Vous les connaissez?
Comment ça?
Vous les connaissez, en fait, c'est des petits lutins qui sont très dessinés au moment de Noël, on en voit partout.
Ah bon? Alors, il y a des mots qui rentrent alors qu'on comprend. Séparatisme est rentré?
Oui.
Invisibilisation, c'est pas très joli, mais c'est ça a du sens.
C'est un mot important, ça a du sens, notamment l'invisibilisation des femmes. Arrive parfois.
Covid long, évidemment.
Le Covid long, tout à fait.
Bon, grossophobie.
Oui.
Bien sûr.
Il y a des mots aussi auxquels on ajoute un nouveau sens.
Par exemple,
le merveilleux, on connaissait l'adjectif.
Oui.
Et là, c'est une pâtisserie. C'est une pâtisserie.
Ah oui, c'est un gâteau, le merveilleux.
C'est un gâteau, oui, très
c'est
bon.
Un gâteau très connu.
Ce sens-là, il a été ajouté, là.
Bien sûr. C'est quoi le chic lit que je disais tout à l'heure?
Alors, c'est
ça rentre dans le dictionnaire,
oui,
ça
oui.
Chic. Alors, C-H-I-C-K, plus loin, L-I-T.
Oui. Alors, ça vient de l'anglais, ça veut dire la littérature de poulette. Parce que c'est la littérature féminine. Voilà, plutôt très destiné aux femmes. Et en fait, on fait aussi rentrer l'équivalent français qui est romance urbaine. Ça, c'est le mot
roman
français.
Romance sur quoi?
Pour romance urbaine.
Ah, urbaine, j'avais compris, surbaine. Donc, effectivement, urbaine. Bon, le yodel, c'est quoi?
Le yodel, vous savez, c'est ce chant suisse où on fait des... Je ne vais pas vous le faire.
Ah, bah non.
Voilà, c'est tout à fait, voilà. Vous avez osé.
Je traduis.
Et il y a des mots aussi qui sortent ou pas du dictionnaire? Parce qu'on en ajoute chaque année?
Eh bien, non. Il n'y a pas du tout de tueur du dictionnaire, contrairement à ce que affirmait M. Pérec. Non. D'une année sur l'autre, en fait, notre langue, elle s'enrichit. Le dictionnaire, c'est une photographie de la langue. Donc, en fait, on a tendance à accumuler de nouveaux mots, de nouveaux sens, comme vous le disiez. Mais on ne fait pas sortir d'une année sur l'autre de mots. Et parfois, lors des grandes refontes qui ont lieu tous les 10-15 ans, on peut à ce moment-là enlever quelques mots, mais c'est une toute petite proportion. Ça représente 0,0001% de la nomenclature.
170 ans, je crois, pour Larousse.
Exactement.
64 000 mots dans ce dictionnaire. Il y a 28 000 noms propres.
Oui.
Également, alors parmi les noms propres qui entrent, j'ai vu Olivier Roustin.
Tout à fait, le directeur artistique de chez Balmain.
Ce jeune garçon qui est très beau et qu'on voit régulièrement. La danseuse mystique Copeland entre également dans le dictionnaire des noms propres. Le cuisinier Thierry Marx.
Oui.
Entre également. Et puis la prix Nobel de la paix, Maria Angelita Ressa.
Et ça, pour rentrer dans le dictionnaire, il faut faire comment pour les personnalités ?
Non,
mais Pascal, par exemple, si Pascal Praud devait rentrer dans le dictionnaire.
En fait, il y a tout un tas de critères.
D'accord.
Et en fait, il faut vraiment avoir une très longue carrière.
Oui, bien sûr. Et bien, bien sûr. Bon, bah écoutez, non, mais ça fait toujours causer. Franchement, chaque année, c'est un plaisir de voir ces nouveaux mots, c'est sympathique. Et bravo à vous. Il y en a combien de ventes Petit Larousse par an ?
Est-ce que les gens, ça, ça, c'est secret.
Ah bon ?
Oui.
Ah bon, alors vous avez des secrets. Ah ouais, vous devez gagner beaucoup d'argent, alors c'est pour ça que vous ne voulez pas le dire.
Je ne dirai rien.
Il est 13h08. Merci donc à Ludovic Van de Kerckhoff qui était au 12h30, qui pourrait entrer dans le dictionnaire, lui aussi, selon Van de Kerckhoff, célèbre. Il faut de la place. C'est là qu'il faut en virer trois d'un coup, si on fait rentrer Van de Kerckhoff. Merci Amandine. Il est 13h08. On va parler d'une actualité dramatique dans une seconde. La mort de Antoine Alénaud, décédé dimanche et renversé, percuté par une voiture, par un chauffard. À tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.